Très bien.
Bien.
Bonjour à toutes et
Bonjour.
tous. Ah, un petit problème technique qui va se régler peut-être. C'est bon? Très bien. Donc, pour ceux qui ne nous entendaient pas, c'était assez normal puisqu'on n'avait pas encore ouvert les micros. Et donc, bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce webinaire concernant les formateurs. Du premier degré, c'est-à-dire nos maîtres formateurs du premier degré et nos CPA-IUN. Nous allons donc échanger avec vous pendant un petit moment, une petite heure, pour vous donner des informations qui vous permettront de finaliser ou pas votre candidature sur les postes à pourvoir pour la rentrée 2023. Donc, avant de continuer tout cela, on va vous donner un petit peu comment nous allons organiser ce webinaire pour que vous en connaissiez les tenants et les aboutissants. Et ensuite, nous nous présenterons pour que la manière dont vous allez nous percevoir et nous entendre soit plus explicite pour vous.
Alors, sur le déroulement de ce webinaire, vous avez pu le constater en vous connectant, vos micros sont automatiquement coupés. C'est normal, c'est nous qui avons la main. Même chose sur les caméras, ce n'est pas forcément très utile. En revanche, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas échanger avec nous. Vous pouvez le faire via le chat. Donc, dans un premier temps, on vous invite surtout à nous signaler les problèmes techniques, ce que vous avez fait. On n'entend pas, on entend bien. Et dans un second temps, de pouvoir poser des questions sur des sujets que l'on va aborder et auxquels vous n'auriez pas trouvé de réponse. Alors, le chat n'est visible que par nous. Nous ne pourrons peut-être pas être en mesure de répondre à l'ensemble des questions. Donc, pour les questions très personnelles, etc., vous verrez à la fin du PowerPoint, vous aurez les coordonnées de la personne que vous pourrez joindre. Et ainsi poser toutes vos questions. Dernier petit point, mais ça, c'est la même chose. Vous avez dû le voir en vous connectant et vous avez dû d'ailleurs l'accepter. Nous enregistrons ce webinaire. Donc, il n'y a pas de caméra, il y a uniquement le son et notre prestation. On ne voit pas le chat non plus, mais ça permettra aux collègues qui n'auront pas pu se connecter avec nous sur ce webinaire de pouvoir le réécouter sur le site en allant sur le site de l'agence. Voilà.
Très bien, je propose que nous nous présentions.
Donc, je suis Christine Charbon-Sandeau, je fais partie du bureau du recrutement, je suis l'adjointe de Fabienne Chartier et j'assure en fait le rôle un petit peu de référente sur ce recrutement du premier degré.
Bonjour, je suis donc Fabienne Chartier, la chef du bureau du recrutement à la DRH de l'AEFE. Juste un petit message, certains nous signalent qu'il n'y a pas de son. Est-ce que vous pourriez nous confirmer par le chat si vous nous entendez bien? Une ou deux personnes, simplement.
Oui, non.
Ouais. Très bien,
C'est
merci.
rassurant.
C'est rassurant, oui.
Virginie Chupin, donc moi je suis directrice des ressources humaines adjointe du réseau.
Et donc Bernard Pujol, le directeur des ressources humaines du réseau de l'AEFE. Écoutez, dans ce webinaire, la première partie que nous allons balayer sera un petit peu une présentation de ce qu'est l'AEFE, de ce qu'est ce réseau pour lequel vous candidatez. Alors, certains d'entre vous le connaissent parce qu'ils ont déjà été participants, ils ont déjà été dans le réseau, d'autres le découvrent, mais l'objectif, c'est de ne pas vous assommer sur des informations d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur le site, mais de vous donner quand même quelques lignes directrices qui permettent de comprendre comment l'AEFE a existé et un peu quelles sont les conditions aujourd'hui qui sont si vous voulez, les objectifs que nous avons pour les années à venir. Alors, pour juste votre information, l'AEFE est un opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui a été créé en 1990. Et donc, aujourd'hui, ce réseau est chargé du suivi et de l'accompagnement des établissements des lycées français à l'étranger dans 136 pays pour 566 établissements et qui scolarise plus de 300, enfin, à peu près 390 000 élèves aujourd'hui. Donc, on a, si vous voulez, cette je dirais, prestations au niveau du monde entier. Et je dirais que nous sommes donc notre, nous avons un seul ministère de tutelle, c'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc en venant chez nous, eh bien vous allez un peu vous déshabiller un petit peu et quitter votre ministère d'origine pour endosser un nouveau vêtement qui sera celui de l'opérateur au service du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. En revanche, nous conservons toujours notre tutelle, entre guillemets, pédagogique avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et je vais vous donner de suite la raison, parce qu'elle est fondamentale, c'est que tous ces établissements qui sont aujourd'hui au sein de ce réseau, on verra les différents types d'établissements après, sont tous des établissements que l'on dit homologués. Ils obtiennent tous une homologation du ministère de l'Éducation nationale. Cette homologation, elle a du sens, parce qu'elle permet, si vous voulez, de certifier pour les parents qui mettent les enfants chez nous, que l'enseignement que nous dispensons dans tous les pays du monde est le même que celui qu'un enfant reçoit en France, quelle que soit la région aussi de France dans laquelle il est. Ça, c'est le cœur même de la mission de service public qui nous a été confiée, c'est d'assurer un enseignement conforme aux dispositions du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Ça, c'est l'élément, si vous voulez, fondateur de nos établissements. Donc, ce contexte général aujourd'hui de l'AEFE, il a évolué sur deux éléments fondamentaux. Premièrement, suite à un discours de notre président de la République il y a déjà 4 ans, il nous avait demandé, en fait, il avait demandé à notre directeur et au ministère d'imaginer un développement du réseau qui devrait amener le réseau en 2030, à doubler ses effectifs. Donc, malheureusement, entre-temps, nous avons eu, et vous avez connu cela, la pandémie. Et donc, nous avons eu 2 années difficiles dans le réseau parce que la pandémie a touché tous les pays du monde, plus ou moins, plutôt plus d'ailleurs que moins, de manière, je dirais, importante. Et donc, ça nous a mis dans une situation compliquée pour continuer à assurer de l'enseignement et pour maintenir nos établissements dans tous les pays du monde. Heureusement, nous y sommes parvenus, et nous y sommes parvenus parce que, notamment, on a eu une implication très importante des équipes, de nos enseignants, des maîtres formateurs, mission à laquelle vous candidatez, des conseillers pédagogiques, des inspecteurs et des enseignants formateurs du second degré, et des équipes de direction, bien sûr, des enseignants. Et tout cela a permis de mettre un enseignement à distance d'une immense qualité, d'ailleurs, qui fait un peu référence aujourd'hui même au ministère de l'Éducation nationale, et nous a permis de maintenir nos effectifs. Et aujourd'hui, nous sommes revenus à une rentrée normale, puisque tous les lycées du monde ont ouvert pour cette rentrée, à l'exception d'un, c'est Haïti, puisque nous avons réussi à ouvrir même en Ukraine il y a peu de temps. Donc, on est sur une situation qui est quasiment normale aujourd'hui sur une rentrée scolaire. Et donc, les prémices d'une nouvelle augmentation possible des effectifs commencent à se sentir. Et donc, on est sur une bonne voie. Donc, ce développement des lycées français, c'est l'objectif qui nous a été assigné. Il l'a confirmé notre président de la République aux ambassadeurs en disant « Je compte sur vous pour développer ce réseau, d'autant plus que vous êtes un élément important de la diplomatie d'influence au niveau du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. » Ça veut dire que les lycées français à l'étranger font partie du réseau des ambassades avec les instituts français, les alliances françaises que vous avez peut-être connues et au service des conseillers de coopération et d'action culturelle. C'est important parce que, si vous voulez, ça va générer pour vous quelque chose de nouveau, puisque vous allez être dans un établissement où le référent ne sera plus votre inspecteur d'académie ou votre DAZEN, mais la référence, c'est votre supérieur hiérarchique qui est ici directeur d'école, qui peut être le proviseur certainement du lycée, mais qui est surtout l'ambassadeur de France. Et donc, ça nous oblige, si vous voulez, vis-à-vis des pays dans lesquels nous sommes accueillis, à un certain respect de ces pays, de leurs règles, coutumes et us, et d'avoir une neutralité totale avec le pays dans lequel nous sommes affectés, d'autant plus quand on a des missions comme les vôtres, c'est-à-dire des missions de formateurs qui vont s'adresser à des personnels parfois de droit local qui, eux, sont en prise directe avec la politique, avec ceux qui vivent dans leur pays. Donc, c'est quand même quelque chose de très important. Pour faire fonctionner ce réseau, nous avons trois types d'établissements qui sont à disposition. Vous avez vu que les postes sur lesquels vous candidatez peuvent être supportés soit par des établissements à gestion directe, c'est-à-dire des démembrements un petit peu de l'AEFE, puisque en fait le budget, le compte financier sont agrégés au budget de l'agence. Ensuite, on en a 76 pour vous donner un chiffre. Ensuite, nous avons des établissements conventionnés, c'est-à-dire des établissements qui ont signé une convention avec l'agence. La spécificité de ces établissements, c'est qu'ils sont gérés par des comités de gestion ou par des associations de parents d'élèves, mais que par le biais de la convention, nous mettons à disposition des établissements des personnels d'encadrement, des personnels, si vous voulez, enseignants, et nous avons une relation avec eux d'un suivi régulier, à la fois un accompagnement budgétaire si nécessaire. L'exemple criant, ça a été le Liban notamment, où nous avons complètement accompagné nos établissements libanais qui étaient conventionnés quand il y a eu non seulement la crise, mais en plus le drame du 4 août 2020 avec la bombe qui a explosé, enfin l'explosion qu'il y a eu sur le port de Beyrouth. Donc ça, ce sont des exemples qui montrent la nécessité de ce conventionnement pour ces établissements et ces personnels. Et puis, on a un troisième type d'établissement, qui sont les établissements partenaires. Ces établissements se développent de plus en plus. C'est avec eux vraiment que le développement du réseau se fait. Ce sont des entreprises privées, ce sont des consortiums, ce sont des groupes qui gèrent des établissements dans certains pays du monde, dans certaines villes du monde, parce qu'il y a des demandes, il y a un développement, un goût pour l'enseignement à la française. Et là, nous n'avons aucune... Enfin, on a un accord de partenariat, mais ce sont ces établissements qui gèrent eux-mêmes et le recrutement et la gestion de l'établissement. Nous n'intervenons pas du tout dans la manière dont il fonctionne. Donc, on n'a pas de personnel détaché, pour vous donner un exemple, là-dedans. Mais il peut y avoir des personnels titulaires, qui sont ce qu'on appelle des détachés directs, des gens qui sont détachés directs ou des gens en disponibilité qui travaillent dans ces établissements. Et pourquoi on a besoin d'avoir ces personnels? Parce que ces établissements partenaires, s'ils font partie du réseau de l'AEFE, je rembobine ce que je vous ai dit au début, c'est que cet établissement, il est homologué. Et donc, s'il est homologué, eh bien, il enseigne à la française dans le cadre, si vous voulez, des programmes français. Et donc, il fait partie de ce réseau de l'AEFE. Donc, pour vous donner une idée des chiffres aussi, pour vous donner une idée, on a à peu près 5 800 personnels détachés dans le réseau. Ça, ce sont des titulaires détachés, c'est ce que nous gérons ici à la DRH. Et puis, autour de ça, eh bien, l'ensemble pour tous ces établissements de différents types, partenaires, conventionnés, EGD, on est aux alentours de 45 000 personnes qui travaillent dans le réseau aujourd'hui, tout personnel confondu. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de conséquent et d'important. Donc trois types d'établissements, un réseau qui se développe. Un dernier élément important, c'est que avec ce réseau, la gestion des personnels est gérée par un décret qu'on appelle le décret 2022 et qui a été modifié au mois de juin. Ce décret permet d'abord de vous recruter, permet ensuite de vous rémunérer, permet ensuite de vous faire un contrat et de suivre votre parcours à l'intérieur du réseau. Il a été modifié, ça ne vous concerne pas puisque vous êtes... enfin, si ça vous concerne parce que ça change un peu votre nom, vous vous appelez des expatriés avant, on vous appellera aujourd'hui des personnels détachés formateurs. Mais c'est la même notion en fait et les mêmes émoluments, ça sera dit tout à l'heure, qui seront perçus. Et donc on a créé des personnels d'encadrement, des personnels formateurs et des personnels enseignants. Et donc on a changé un petit peu cela, surtout l'intérêt c'est pour les personnels enseignants qui bénéficient de prestations qu'ils n'avaient pas initialement, un peu comme les personnels comme vous, c'est-à-dire des droits au voyage et congé. Mais tout ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc, ce décret, il a quand même, il a bouleversé un petit peu notre travail, il a bouleversé un petit peu notre recrutement cette année, et surtout pour les personnels, je dirais, enseignants. En revanche, pour les personnels sur les postes pour lesquels vous candidatez, on est sur une habitude de travail qui était celle que nous avions les autres années en ce qui concerne les missions et les fonctions que vous allez effectuer. Voilà, je vais m'arrêter là sur la présentation. Vous dire que simplement que si vous souhaitez plus d'informations, vous allez sur le site de l'agence et vous retrouverez toute l'historique, plein d'éléments. Mais je crois qu'il était important de recadrer un petit peu tout cela dans une manière un peu plus synthétique pour que vous ayez une idée du cadre dans lequel nous évoluons et nous allons vous accueillir, nous l'espérons, dans ce réseau des lycées français à l'étranger.
Merci, M. Pujol. Eh bien, je m'appelle Christine Charmeau-Sandeau. Et je suis votre référente sur ce recrutement du premier degré au sein du bureau du recrutement. Donc, à ce titre, eh bien, je participe à ce webinaire hein, afin de tenter de vous apporter quelques réponses déjà à d'éventuels questionnements sur la première étape, qui est la procédure de candidature, en fait. J'imagine que vous avez tous entamé en fait, vos démarches hein, afin de candidater sur le site de saisie et que vous avez constaté, certainement, pour ceux qui l'ont déjà fait, quelques nouveautés qui ont été mises en place dans le cadre de cette nouvelle campagne de recrutement. Alors, elle est nouvelle à plus d'un titre, hein, puisque M. Pujol vient de le souligner, hein, elle est nouvelle dans la terminologie. Hein, vous n'êtes plus des expatriés en devenir, mais bien des personnels détachés sur des fonctions de formateurs du premier degré. Elle est nouvelle également pour nous au bureau de recrutement, puisque c'est une procédure qui nous engage sur le chemin de la dématérialisation des dossiers de candidature. Alors, concrètement, vous avez jusqu'au 29 septembre inclus, date butoir, pour saisir et valider votre dossier sur le site dédié. N'oubliez pas qu'à minuit 1, vous ne pourrez plus rien valider. Votre candidature ne sera plus recevable et nous ne récupérerons aucun dossier en dehors de ce créneau. Ceci étant dit, c'est lors de cette validation que vous verrez apparaître les modalités pratiques d'adressage de votre dossier. Alors, pour plus de confort, quoi qu'il en soit, pas d'inquiétude, hein, vous pourrez les consulter dès à présent, vous pouvez les consulter dès à présent sur le site de l'AEFE, à la page détachée sur mission d'encadrement, formateur du premier degré. Dans les grandes lignes, il vous sera demandé d'envoyer votre dossier avant avis en un seul fichier PDF. Alors, merci de bien vouloir constituer ce dossier dans l'ordre indiqué dans la rubrique « Documents à fournir hein, » de votre dossier en ligne. Vous nous adresserez ce dossier via France Transfert, et essentiellement via France Transfert, qui vous enverra alors un accusé de réception. Allez à l'essentiel, hein, soyez concis dans la constitution de ce dossier, il est inutile de trop l'étoffer d'éléments périphériques. Alors, en parallèle à ce que vous allez nous communiquer, deux cas de figure, les personnels en poste en France, les personnels en poste à l'étranger. Pour les personnels en poste en France, vous allez envoyer votre dossier accompagné de toutes les pièces justificatives à votre IEN, qui, après avoir apposé son avis, l'enverra à l'IADASEL et vous veillerez bien à ce que cet envoi soit fait avant, au plus tard, le 4 octobre. Alors, le directeur des services départementaux nous adressera celle de la dernière page de votre dossier, revêtue évidemment de son avis. Qui est bien un avis donné sur votre candidature. Alors, il est à souligner hein, que c'est important que l'avis du DASEN est un incontournable et que nous ne pourrons en tout état de cause poursuivre ce processus de recrutement au vu d'un avis défavorable. Voilà, c'est à noter. Concernant les personnels en poste à l'étranger, vous adresserez en parallèle deux copies de votre dossier accompagnées des pièces justificatives, hein, toujours pareil, bien entendu. La première copie à votre chef d'établissement et après avis le transmettra à l'IEN de résidence et à son tour, après avis également, l'adressera au conseiller de coopération et d'action culturelle. Alors, le COCAC enverra uniquement cette dernière page des avis au bureau du recrutement. De la même façon, vous veillerez à ce que cet envoi soit fait au plus tard le 4 octobre. La deuxième copie de votre dossier, vous devrez l'adresser à l'IADASEN de votre département de rattachement. C'est pareil, c'est incontournable. Celui-ci enverra au bureau de recrutement l'adresse indiquée, la dernière page de votre dossier, bien revêtue de son avis. Hein. Donc, une fois cette étape franchie, à la réception de l'ensemble des pièces, le bureau du recrutement va vous adresser un courriel qui vous indiquera d'une part la bonne réception hein, de toutes les pièces du dossier, l'intégralité des pièces, mais aussi sa recevabilité. Ce message vous confirmera comme de cette façon, ce message va vous confirmer l'enregistrement de votre dossier de candidature. Alors, si vous n'avez pas cette information le 2 novembre, surtout, vous n'hésitez pas à revenir vers moi, hein, mais sachez que de toute façon, nous collecterons ces avis tout au long du mois d'octobre. Hein, on sera très vigilant sur ce suivi, bien évidemment. On enregistrera tout. Enfin, si vous n'avez pas de nouvelles le 2 novembre, vous n'hésitez pas. Hein. Donc, cette première étape pratique passée, nous entamons au bureau de recrutement l'étude des dossiers afin de mener à bien la phase de sélection des candidats retenus en entretien. Donc, cette sélection, elle s'opère selon les critères qui sont clairement indiqués hein, lors de la saisie de votre dossier et ainsi, bien sûr, dans les profils de poste. Hein, c'est un petit peu, ça tombe un peu sous le sens. Hein. Vous postulez sur des postes de formateur du premier degré, comme conseiller pédagogique auprès d'un IEN ou sur des postes sur des postes d'enseignant maître formateur en établissement à l'étranger. Donc pour cela, l'incontournable bien sûr, c'est d'être titulaire de la fonction publique depuis au moins 2 ans. Il vous faudra évidemment détenir un capital et être actuellement dans des fonctions de formateur, c'est-à-dire maître formateur ou conseiller pédagogique. Ou l'avoir été très récemment, si vos pas vous ont entraîné sur d'autres missions. Après, ça peut arriver. Mais il vous faudra quand même justifier d'une expérience d'au moins 3 ans sur des fonctions de formateur. Bien sûr, l'expérience est essentielle. Hein. C'est elle qui, en priorité, vous permettra d'accéder à cette phase d'entretien. Donc, la sélection interne est effectuée par l'agence. Le pôle recrutement prépare alors toutes les invitations à ces entretiens qui se dérouleront de la même façon du 25 janvier au 15 février environ 2023. Quoi qu'il en soit, vous serez tous prévenus de la suite donnée à votre candidature, tous. C'est-à-dire qu'une semaine avant le début des entretiens, par courriel expédié à... Ah oui, alors ça c'est important. Expédié à l'adresse de messagerie que vous avez indiquée dans votre dossier. Faites attention, veillez à utiliser une adresse personnelle. Nous avons rencontré par le passé des soucis avec les adresses académiques. Donc c'est préférable. Alors, à cette étape, il y a 2 possibilités. Un entretien au travers de ce courriel, un entretien vous est proposé selon les modalités qui seront définies dans ce courriel. Ou alors, vous ne satisfaisez pas aux conditions attendues et nous vous enverrons de toute façon un mail succinct pour vous indiquer le pourquoi de cette non-sélection. Alors, quant à l'entretien, il se déroule sur une 30aine de minutes. 10 minutes. Vous vous emploierez à vous présenter, hein, bien sûr, et présenter votre projet d'expatriation. Et 20 minutes qui seront consacrées ensuite à un échange avec l'ensemble de la commission. Alors, cette commission, elle est constituée d'un représentant du service pédagogique, bien évidemment, d'un représentant de la direction du développement et de l'appui du réseau. Alors, si cette terminologie ne vous évoque rien, eh bien, allez voir sur le site de l'agence. Hein. Il est très riche et il est toujours très intéressant et très pertinent d'aller le consulter, notamment pour préparer ses entretiens. C'est important. C'est une source d'information majeure, hein, clairement. Et puis, d'un représentant de la DRH. Voilà. Cet entretien doit permettre une mise en évidence, eh bien, bien sûr, de vos motivations, de vos qualités personnelles, des atouts de votre parcours professionnel, et puis, bien sûr, de l'adéquation de votre candidature aux différents postes sollicités. Postes sollicités au pluriel. Hein. Un focus sur un seul poste qui peut vous paraître très attractif peut vous desservir. Hein. Là aussi, c'est un élément mathématique assez simple. Hein. Autant de postes, un ratio de 3 personnes par poste, on va organiser des entretiens en conséquence. Mais tout le monde ne peut pas être retenu non plus hein, sur un VU8. Hein. D'autant plus que là, on a quand même 19 postes de formateurs. Hein. 5 postes de CPAEN, si je ne me trompe pas, et 14 postes de maître formateur.
Alors, nous sommes bien sur le premier degré.
Absolument. Maître formateur, oui, premier degré, absolument. Donc, vous comprendrez bien qu'un vœu unique hein, ne multipliera pas vos chances d'être retenu en entretien. Donc, à l'issue des entretiens, la commission consultative paritaire centrale va valider les candidatures retenues et elle se tiendra le 28 février. Donc, une fois les propositions validées par la commission, on vous envoie à nouveau un courriel qui va vous préciser, eh bien, le refus à l'issue de l'entretien, ou la proposition de poste, ou encore, troisième possibilité, votre positionnement sur de la liste de réserve. Alors, il ne s'agit pas du tout d'une liste par défaut. La commission a reconnu la pertinence de votre candidature, mais n'a pas pu croiser les intérêts propres à chacun. Hein. Le recruteur d'un côté, le candidat de l'autre. Ah, ça, c'est une situation qu'on rencontre souvent lorsque vous faites très peu de vœux et dans une seule zone géographique, par exemple. Donc, veillez-y dans la stratégie que vous mettez en place concernant ces vœux. Donc, le bureau du recrutement va gérer ensuite l'ensemble de ce suivi. Une seule proposition de poste vous sera faite. Donc, vous aurez quelques jours pour y réfléchir et vous rapprocher donc à cette étape du gestionnaire. Hein, ça vous sera indiqué dans le mail, qui gérera votre dossier tout au long de votre mission si vous l'acceptez. Vous avez également toute liberté de refuser cette proposition à cette étape, bien sûr, personne ne vous met le couteau sous la gorge. N'oubliez pas toutefois que si vous acceptez le poste proposé, alors cela, bien sûr, est sous réserve, proposition de poste, deux conditions essentielles à votre départ qui doivent être actées. C'est l'accord de détachement délivré par le MEN et l'agrément accordé par le poste diplomatique. Ces deux éléments fondamentaux, c'est bien sûr le bureau du recrutement qui se charge de toutes les démarches hein, et qui vous informera de ce suivi attentif. C'est la délivrance de ces documents qui marque la fin du recrutement et votre dossier est alors transféré auprès de votre gestionnaire au bureau de la gestion administrative et financière. Un autre petit point, vous avez peut-être vu qu'un premier webinaire avait été consacré tout à l'heure aux fonctions de direction d'école. Tout ceci est fongible. Il est très possible que parmi vous, vous ayez peut-être une double casquette. Ne vous empêchez pas de candidater sur des postes appropriés, bien sûr, à votre expérience professionnelle. Hein. Tout sera étudié hein, dans le cadre de l'étude des dossiers. Et voilà, et bien, écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Passe la parole.
Alors, peut-être justement quelques considérations pratico-pratiques. Vous êtes recruté sur quoi? Vous êtes recruté sur un contrat à l'agence. Il n'y a pas de corps de fonctionnaire. Donc, votre détachement, vous l'obtiendrez sur un détachement dit sur contrat. Alors, ce contrat sera d'une durée initiale de 3 ans qui pourra être renouvelé 2 fois 1 an. Ça veut dire on attend de vous une mission, si tout se passe bien, sur 5 ans. Mission de 5 ans pour laquelle vous pouvez ensuite candidater dans le réseau et enchaîner une deuxième mission ou y revenir plus tard. Voilà. En termes de rémunération, vous serez rémunéré sur la base de votre indice nouveau majoré au moment de l'établissement de votre contrat, donc celui que vous détenez au titre de votre corps, grade et échelon actuel. Cet indice sera figé pour la durée de votre contrat sur cette première période de 3 ans. Donc, autrement dit, si vous avez une promotion d'échelon, un changement de grade entraînant un changement d'indice nouveau majoré au cours de cette période de 3 premières années, il ne sera pas pris en compte dans le cadre de votre rémunération. Il sera pris en compte, en revanche, pour votre contribution à pension civile, puisque sur votre traitement brut, vous continuerez, comme en France, à payer vos cotisations de pension civile. À cette rémunération principale s'ajoute une indemnité spécifique, une indemnité géographique et de fonction spécifique qui est destinée, en fonction du pays d'affectation, à prendre en compte les conditions de vie du pays, conditions de logement, mais aussi conditions sécuritaires, sanitaires, sociales, qui est donc variable en fonction des pays, qui est arrêté et modifié potentiellement par trimestre, par arrêté du ministère des Affaires étrangères, ministère dont l'agence dépend. À cette indemnité peut s'ajouter, si vous avez des enfants à charge, dans les mêmes conditions que à charge au titre du supplément familial de traitement, des majorations familiales. Alors, ces majorations familiales sont plus conséquentes que le supplément familial de traitement puisqu'elles remplacent les allocations, les prestations d'allocation, et le supplément familial de traitement. Et elles ont vocation à couvrir les frais de scolarité de vos enfants à l'étranger, puisque nos établissements d'enseignement à l'étranger ont également une vocation, une mission de service public qui, contrairement à la France, est en revanche payante, puisque nos établissements ont le statut d'établissement privé hein, à l'étranger. Voilà, donc ces majorations familiales ont vocation à couvrir les frais de scolarisation de vos enfants dans le réseau. Juste pour bifurquer sur justement la scolarisation des enfants dans le réseau, on a souvent une question qui nous est posée de savoir si on a systématiquement une place dans l'établissement où l'on est affecté. J'ai envie de vous dire que c'est un petit peu le principe que de pouvoir mettre et scolariser ses enfants dans l'établissement dans lequel on est affecté. Alors après, attention, renseignez-vous, puisque l'établissement sur lequel vous serez affecté n'aura pas forcément tous les niveaux de scolarisation, puisque nous scolarisons de la maternelle à la terminale, mais on vous parlait d'homologation en début de webinaire, et il se peut que l'établissement où vous serez affecté n'est pas tous les niveaux d'enseignement, s'arrête à la sixième, par exemple. Donc, si vous avez des enfants plus âgés, voilà. Il faut aussi avoir en tête que vos enfants ne pourront peut-être pas suivre dans l'établissement leur scolarité et qu'il faudra peut-être passer par le CNED ou un autre établissement dans le pays. Voilà, chose qu'il faut que vous ayez en tête dans la préparation de votre voyage. Je vous passe les différentes indemnités, ISAE et autres, qui peuvent exister. Ça, ce sera à voir au moment où vous aurez l'échange, justement, avec votre peut-être futur gestionnaire administratif.
Voilà. Pardon, juste sur les contrats, peut-être préciser une chose. Dans les deux métiers sur lesquels nous recrutons, là, d'un côté, nous avons des conseillers pédagogiques qui ont une décharge complète d'enseignement et qui sont directement sous l'autorité de l'IEN, hein, il faut être clair. Et pour les EMFE, vous aurez une demi-décharge, c'est-à-dire que vous allez avoir un mi-temps d'enseignement dans l'établissement où vous êtes affecté et vous aurez un mi-temps de décharge sur lequel vous aurez une double mission. Une première mission qui sera d'assurer de la formation à l'intérieur de l'établissement dans lequel vous êtes affecté. Et une deuxième mission, mais peut-être on y en reparlera, ça sera d'intégrer le plan de formation académique géré, le plan régional de formation géré par la zone dans le cadre de l'Institut régional de formation. Et vous serez amené à assumer certainement des formations dans différents établissements ou à faire des formations dans ce cadre de ce plan. Voilà. Mais je pense que cette idée, cette notion de décharge est vraiment importante. Et il faut que vous l'ayez vraiment en tête.
En complément des éléments de rémunération, vous allez aussi percevoir, si vous êtes nommé dans un de nos établissements, une indemnité qui participe, l'indemnité de changement de résidence, qui vous permet de couvrir des frais d'un déménagement raisonnable, on va dire. Donc, cette indemnité, en fait, elle prend en compte la composition familiale, conjoint et enfant, et elle dépend aussi du lieu de départ et du lieu de nomination. Le principe, c'est qu'en fait, vous touchez 80% qui sont versés d'office, donc c'est forfaitaire, et les 20% restants sont versés sur production de factures de frais de déménagement. Et il y a aussi la participation de l'agence en fait au voyage. Donc pour vous, le conjoint et les enfants à charge, en fait l'agence prend en charge le voyage pour partir en poste, pour en revenir, et aussi les voyages de congé. Ces congés ont une fréquence qui dépend du pays. En fait, c'est un arrêté qui fixe la durée de séjour pour y prétendre. Donc soit vous y avez droit tous les ans, tous les deux ans ou tous les trois ans, suivant le pays dans lequel vous êtes nommé. Donc, c'est un élément important qui vient en complément des indemnités particulières liées à la fonction de détaché formateur à l'AEFE.
Peut-être un complément d'information sur les vœux, rapidement. Ça a déjà été évoqué par ma collègue, mais la notion de vœux que vous allez effectuer, le choix des vœux que vous allez faire, il doit tenir compte d'une réflexion professionnelle autour des compétences que vous avez acquises et du profil de poste qui vous est proposé sur le pays où vous souhaitez aller. Alors, premièrement, il faut qu'on soit très clair avec vous. L'AEFE, ce n'est pas une agence de voyage, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous candidatez que vous allez aller dans une destination sur laquelle vous aimeriez, parce que vous y êtes allé en vacances, vous positionner. Nous, ce qu'on souhaite par votre candidature, on cherche, c'est un professionnel en capacité d'enseigner pour les EMFE, d'enseigner dans une en maternelle ou en élémentaire, tout dépendra de l'affectation qui sera la vôtre, et d'avoir une réelle compétence de formateur pour accompagner à la fois les collègues personnels de droit local de votre établissement qui n'ont pas eu la chance d'avoir la formation initiale, à la fois la formation continue dans votre établissement sur certaines questions et d'être en appui du directeur d'école sur la partie formation dans votre établissement. Donc c'est ça, il faut que vous ayez ce goût-là, cette envie de faire ça. Ensuite, bien entendu, que vous allez choisir des vœux sur des pays qui vous tentent, ça, on est bien conscient de ça. En revanche, ça a été dit, un seul vœu, ce n'est pas un bon choix. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que vous ayez cette volonté, à un moment donné, d'élargir les vœux. C'est-à-dire que si vous vraiment vous voulez partir et si travailler dans ce réseau vous intéresse, il faut que vous élargissiez vos vœux et donc que vous n'hésitiez pas, dans la mesure où vous en êtes capable, vous en avez discuté, à élargir vos vœux sur une zone géographique. Parce que comme ça a été dit tout à l'heure, si vous êtes dans la liste de réserve et que de nouveaux postes apparaissent dans le mouvement en cours d'année, nous allons regarder, si vous voulez, sur ces nouveaux postes qui apparaissent, les vœux que vous aviez faits sur votre dossier de candidature initiale et les extensions de vœux que vous aviez faites. Et donc, à partir de ce que là, nos collègues vont regarder l'adéquation entre les postes qui sont à pourvoir et les vœux que vous aviez faits. Et donc, de cette liste de réserves, on peut vous proposer un poste qui se découvrirait dans le futur candidature. Donc, faites des choix sur des vœux réfléchis, des vœux professionnels et à la fois, je dirais, personnels. Faites aussi des extensions de vœux comme vous le souhaitez, en n'hésitant pas, pour des raisons familiales, ce qu'on peut comprendre, d'exclure de ces vœux géographiques certains continents parce que vous ne vous sentez pas capable d'aller dans ces continents-là. C'est tout à fait compréhensible et on y fait aussi très attention. Voilà, cette réflexion sur les vœux, elle est importante et je maintiens que là, ce n'est que la partie professionnelle que j'évoque, que celle-là.
Pour compléter cette partie professionnelle, ce projet, il est professionnel, donc on en a beaucoup parlé, mais il est aussi personnel, familial. C'est les postes qu'on propose, vous l'avez entendu, c'est un engagement sur 3 ans, un contrat de 3 ans, plus 2 fois 1 an, donc un engagement de 5 ans. Donc, c'est important de bien préparer ce départ, à la fois personnellement et familialement. Donc, effectivement, envisager que le conjoint n'ait pas forcément de poste, l'agence ne peut pas s'engager à ce qu'un poste soit proposé à votre conjoint ou conjointe. S'il est enseignant titulaire, éventuellement, il pourra postuler sur les postes qui vont être proposés en décembre de détaché d'enseignement. S'il y a un poste, on peut éventuellement le recruter ou en contrat local dans l'établissement, mais sans aucune assurance. Et puis, il faut aussi envisager le départ en famille. Si vous avez des enfants, effectivement, il faut quand même bien envisager ce départ avec les enfants et partager avec eux cette nouvelle scolarisation dans un établissement à l'étranger. Voilà, c'est vraiment un projet qui se prépare. On ne peut que vous engager à prendre contact avec les chefs d'établissement et les collègues qui sont déjà sur place. Vous avez sur le site de l'agence la liste, un onglet qui s'appelle « Rechercher un établissement ». Donc là, vous avez toutes les coordonnées de nos établissements. Et prenez contact, vraiment, n'hésitez pas pour avoir le plus de renseignements possibles sur les conditions de vie locale, la culture, pour les postes de MFE, notamment sur le public, en fait, des collègues que vous aurez à former, si ce sont beaucoup des résidents, des personnels de droit locaux, ça vous permet aussi de vous projeter vraiment par rapport à une mission qui est spécifique par rapport au poste de maître formateur en France. C'est quand même important. Sur les postes de CPIAUN, ça vous permet aussi de mesurer la fréquence des déplacements que vous pouvez être amené à faire dans la zone, en fait, de formation de l'IUN. Voilà, c'est un projet qui se prépare, parce que on attend de vous un engagement dans la durée, un engagement à minima sur 3 ans et dans l'idéal sur 5 ans. Donc effectivement, vraiment bien réfléchir sur ce projet professionnel et personnel.
Et peut-être pour compléter les propos de Mme Chartier, rappeler que dans ce projet personnel, il y a aussi le conjoint qui vous accompagne et le souhait par moment de travailler de ce conjoint. Donc, vous n'êtes, on n'est pas sûr de pouvoir, alors si vous avez un conjoint qui travaille aussi comme vous dans l'éducation nationale, on n'est pas sûr de pouvoir lui proposer un poste de détaché comme vous. Non. Donc, il ne faut pas partir avec cette idée-là. En revanche, rien ne l'empêchera peut-être de travailler dans le cadre de remplacement au début, puis d'avoir un poste en contrat local, peut-être dans l'établissement. Ça fait partie des choses qui se font quand on arrive dans le réseau. Mais regardez bien cela avant de partir, pour ne pas être déçu après et vous retrouver dans une situation que vous n'arrivez pas à vivre familialement parce que vous n'aviez pas anticipé le fait que ben, le conjoint ou la conjointe qui va rester peut-être plusieurs années sans avoir un vrai travail, ça peut amener une expatriation compliquée. Et donc, ces analyses-là, c'est comme vous venez de dire, Mme Chartier, elles sont nécessaires avant le départ, à bien se projeter sur cette notion d'expatriation. C'est vraiment très important pour nous.
Elle me permet juste de rebondir sur une question que j'ai vue passer concernant le fait de ne pouvoir candidater que sur des vœux géographiques. Bien sûr que non, ce n'est pas l'idée. Hein. Vous imaginez bien qu'on ne retiendra pas en entretien uniquement des candidats qui font des vœux géographiques. Vous avez une liste de postes, faites déjà un projet, construisez un projet stratégiquement autour des postes proposés. Après, bien sûr, élargissez, mais sur de simples vœux géographiques, voilà, je ne vois pas trop comment c'est pas pertinent, en fait. C'est pas pertinent.
On cherche des gens pour des postes.
Nous, on a besoin effectivement de recruter sur les postes indiqués, hein, et pas à la périphérie de postes supposés arriver à un moment donné. Donc, pas d'intérêt pour vous à faire un dossier de candidature uniquement sur des vœux géographiques, hein, clairement.
Et c'est d'autant plus important de faire des vœux qui soient réfléchis, oui, et qui soient élargis, parce que ce que nous essayons de faire dans le recrutement, c'est au travers des compétences que vous allez mettre en avant de votre dossier de candidature, quand on aura repéré votre parcours professionnel, de chercher la bonne adéquation entre votre profil et le poste à pourvoir, dans la connaissance aussi qu'on a des équipes sur place et de l'intégration de ce maître formateur ou de ces PAIEN avec l'IEN avec lequel il va travailler, parce que là aussi se jouent des enjeux à la fois de qualité d'équipe, d'intégration et de qualité de la formation. Donc, on a besoin de tous ces éléments de contexte pour nous être dans ce recrutement les plus objectifs possibles et d'avoir pour nous la projection qui nous paraît la plus juste et la plus adaptée au poste que l'on doit pourvoir. C'est notre engagement, en tout cas, dans la qualité du recrutement.
Dans ce cadre-là, la maîtrise de la langue peut être importante.
Absolument. Je crois qu'aujourd'hui, ça fait partie vraiment de quelque chose sur lequel vous devez réfléchir et travailler, même si la langue n'est pas obligatoire dans le profil qu'on vous a présenté. Le fait de maîtriser une langue étrangère et la langue du pays d'accueil vous permettra d'avoir, alors pour les EMFE, une bonne relation d'avoir avec vos parents d'élèves, parce que c'est eux que vous allez avoir, puisque vous allez avoir une demi-classe et donc une classe à partager certainement avec quelqu'un, mais vous aurez des parents d'élèves en face de vous. Certains ne parleront pas français. Donc être en capacité, non pas forcément de parler avec eux, mais de les comprendre et de vous faire accompagner par quelqu'un pour expliquer certaines choses, c'est déjà un premier état nécessaire. Ensuite, quand vous allez faire de la formation, si elle est interne ou régionale, vous allez être avec des personnels de droit local qui peut-être ne maîtrisent pas totalement la langue française. Et donc, il est important à ce niveau-là que vous soyez en capacité de préparer ces formations en tenant compte de cette difficulté langagière qui est au cœur de la pédagogie, là. Et il va falloir que vous ayez des compétences minimales en langue pour pouvoir vous faire comprendre et préparer les formations que vous allez assumer. Donc, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut, si vous n'avez pas de certification, ben, inscrivez-vous dès maintenant à des cours. Si vous avez une certification en cours d'année, ben, vous la joignez, vous l'envoyez à Mme Sandou qui le joindra à votre dossier. Et c'est un plus, de toute façon, ça sera un plus pour l'établissement et pour tout le monde d'avoir cette maîtrise-là. Il y a des endroits où c'est quasiment obligatoire. Pardon?
La petite, cette maîtrise, oui. Elle est importante aussi à
bien
titre
sûr.
Personnel.
D'intégration,
elle est facilitante.
Alors, il y a des pays où c'est incontournable, je pense à l'Allemagne.
Oui.
Hein, ah, là, c'est clair. Et puis, il y a d'autres pays où c'est aussi incontournable, c'est oui, le Royaume-Uni, parce qu'aujourd'hui, il y a une obligation d'État. Et puis, je pense à tous les pays hispanophones, notamment en Amérique du Sud, où on scolarise énormément d'enfants du pays avec des parents qui ne maîtrisent pas forcément la langue française. Donc, une compréhension de l'espagnol est nécessaire. Et puis, l'anglais, ça sert partout. Pour être très clair aujourd'hui, ça sert partout. Et donc, le fait de se remettre, si vous avez oublié un petit peu, à prendre des cours régulièrement et puis avoir une certification, là, vous vous donnerez des éléments supplémentaires pour pouvoir intégrer notre réseau parce que c'est un vrai sujet. Le dernier point, en plus de la langue, c'est la culture du pays dans lequel vous candidatez. C'est très important. Vous avez une obligation de neutralité, je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez une obligation aussi de connaître un peu le pays dans lequel vous allez, parce que les us et coutumes du pays sont parfois très différents de notre pays. Je vais prendre un seul exemple auquel vous serez peut-être confronté, c'est la laïcité. La laïcité telle que nous la vivons en France n'est pas forcément la manière dont elle est vécue dans les autres pays. Et même si nous avons des établissements de français qui, à l'intérieur de l'établissement, font vivre la laïcité, ça c'est une règle, mais dans le pays, vous pouvez avoir à vivre autour de pays où cette laïcité ne peut être vécue de la même façon. Et donc, il va falloir que vous acceptiez, avant de partir, que les coutumes et les us de ces pays ne sont pas ceux que vous avez en France et vous ne pouvez pas vous ingérer dans la vie de ce pays. Vous devez l'accepter en partant dans le pays où vous allez. Ça fait partie des règles, si vous voulez, importantes d'intégration dans la mission qui sera confiée d'expatriation. Donc ça, c'est un élément important, hein. Cette notion de se renseigner et savoir si on va s'adapter à cette culture, parce que c'est ça, à cette culture, à cette vie. Là, vous pensez immédiatement, quand je dis ça, on peut immédiatement penser à des problèmes de religion ou des choses comme ça. Moi, je pense à la sécurité aussi. Il y a des cultures, vous savez, autour de la sécurité dans certains pays où vous devez, par exemple, quand vous rentrez chez vous, vous avez un gardien, vous avez des choses comme ça. Pour certains, ça sera très difficile à vivre parce qu'on a l'impression d'être dans une prison dorée parfois. Eh bien, si on n'est pas capable de vivre ça, il vaut mieux pas aller dans ces pays-là. Il faut accepter qu'il faut se renseigner avant. Et se mettre dans des dispositions où on est en capacité d'accepter de vivre dans des endroits sécurisés, de vivre dans des endroits où on n'a pas les mêmes accès qu'en France à certains produits, même à la vie au quotidien. Et ça, c'est important que vous l'ayez en tête et que vous le prépariez comme il faut. Voilà sur les éléments généraux autour de la langue et de la culture.
Un point sur le retour en France aussi, ça fait partie du projet. On n'est pas encore parti, mais on vous alerte déjà sur ce point. Ce n'est pas du tout pour vous faire peur, mais bien réaliser qu'en fait, ce contrat, il a une durée de 5 ans. Si vous avez un deuxième contrat, ce sera 10 ans. Mais à un moment, vous rentrerez en France. Et là, effectivement, ce n'est pas l'agence qui gère en fait votre retour en France. C'est un retour dans votre département d'origine avec participation de nouveaux mouvements. Les fonctions que vous aurez occupées à l'étranger ne sont pas forcément reconnues à votre retour en France. Donc, effectivement, il faut aussi s'y préparer et imaginer ne pas retrouver un poste équivalent à celui que vous avez pu avoir à l'étranger. Sur le premier degré, le mouvement, il est vraiment géré par les DAZEN. En fait, c'est une réintégration dans le département d'origine. Vous ne serez pas les seuls à souhaiter avoir, par exemple, des postes de CPAUN, postes de maître formateur ou des postes à profil. Donc, effectivement, il faut envisager que vous n'aurez pas forcément les postes que vous aviez en France. Vous allez reparticiper au mouvement avec des règles de mouvement, de mobilité de l'éducation nationale. Donc, effectivement, peut-être vous engager à prendre contact avec votre DAZEN au moment de la formulation de vos vœux pour signaler les missions particulières que vous avez pu avoir à l'étranger et si c'est possible de les mettre en avant pour une réintégration en France.
Et donc, dans les missions que l'on va vous confier pour que vous ayez un maximum d'informations. On vous a parlé du contrat, des décharges. Pour le CPAUN, si vous candidatez sur un poste, Vous serez directement en relation avec l'IEN de zone ou les IEN de zone, puisqu'il y en a dans des endroits, il y en a deux, mais vous serez rattaché à un IEN de zone. Et donc, tout le travail que vous allez faire sera en relation avec l'IEN de zone, notamment dans l'accompagnement des équipes. Et il y a une notion aussi pour les CPIEN de voyage à l'intérieur d'une zone géographique qui est fondamentale et qu'il faut aussi que vous intégriez. C'est-à-dire que vous allez souvent avoir la valise prête, surtout si on n'a plus les problèmes de Covid, et vous allez vous déplacer dans différentes écoles où l'IEN a fait des constats, et vous allez venir peut-être en remédiation, en travail, en accompagnement des équipes sur place pour travailler sur des problèmes de didactique, sur des problèmes d'enseignement, et c'est là où est tout votre rôle. Donc ce temps-là aussi, vous êtes éloigné de, vous pouvez être éloigné de votre famille, vous pouvez être éloigné de vos enfants, vous pouvez les lier en tête, c'est tout, c'est comme ça. Sur les maîtres formateurs sur les EMFE, on n'est pas dans la même chose, puisqu'on est quand même sur un temps de présence dans l'établissement à mi-temps. Donc, on a une présence. En revanche, sur la deuxième partie de son contrat, on peut être amené aussi à bouger, à aller sur l'IRF, à faire des formations. Et donc, c'est important aussi que vous ayez cette notion de mobilité de formation qui fasse partie de votre parcours, des attentes que l'on aura, parce que voilà, ça peut vous amener à un moment donné à bouger. Et il faut que ça ne soit pas une contrainte pour vous, mais au contraire, c'est un moyen d'aller vers les équipes, c'est un moyen de la mission, enfin, d'atteindre un des objectifs de la mission que nous vous confions dans le cadre du rôle de formateur qui sera le vôtre. Pardon. On a fait le tour.
Oui, regardez un petit peu les questions.
Il y a une question sur l'importance en fait d'être titulaire du CAFIPEMF. Nos formateurs, que ce soit les CPAIEN, les EMFE, sont titulaires du CAFIPEMF et on couplé avec une expérience de formateur. Donc, avoir simplement un MEF en formateur ne suffit pas. Il faut absolument avoir le CAFIPEMF à la EFE.
Oui, c'est haut de campagne.
Oui, on peut participer.
Oui, on a parlé tout à l'heure des autres postes qui existent, les postes de détachés d'enseignement, les anciens postes de résidents, pour ceux qui ont déjà une connaissance du réseau actuel. Les anciens postes de résidents, maintenant, s'appellent des postes de détachés d'enseignement. Vous pouvez tout à fait participer à la campagne des détachés formateurs, celle qui est ouverte actuellement, et déposer aussi un dossier en décembre, voire janvier, pour les postes de détachés d'enseignement. Le recrutement des enseignants formateurs, les postes pour lesquels on fait ce webinaire aujourd'hui, les commissions paritaires auront lieu avant celles des personnels enseignants. Donc, vous aurez déjà eu une information sur la suite donnée à votre dossier.
Alors, les différenciations en poste, en EGD et en poste conventionnel, il n'y en a pas de différence. C'est le statut d'établissement qui est différent. On a un établissement à gestion directe, comme j'ai rapidement expliqué, on est dans une gestion qui est, si vous voulez, avec très franco-française, un ordonnateur secondaire, un agent comptable secondaire, et une gestion pilotée localement, mais avec une relation de proximité avec l'agence. Et un conventionné, c'est un pilotage de gestion par un comité de gestion, mais la mission qui est la vôtre ne sera la même, que vous soyez ou dans un EGD ou dans un conventionné, vous aurez la même mission de formateur que celle, quel que soit le type d'établissement dans lequel vous êtes affecté. Ça, c'est hyper important pour qu'on puisse vous donner sur la formation qu'on attend de vous. D'accord? Donc, ça fait partie vraiment de choses non importantes.
Je vois des questions un peu précises, excusez-moi, sur les pièces justificatives à fournir. Alors, écoutez, ne vous privez pas de candidater. De toute façon, les dossiers seront étudiés. Voilà, vous avez peut-être qu'il vous manque un petit peu d'expérience. Vous actez pas 3 ans, par exemple, d'expérience sur un poste de maître formateur, mais vous avez un CAPASH, un CAFIPEMF, candidaté. Tout ça s'appréciera dans le cadre de l'étude des dossiers. Bien on n'est pas dans quelque chose, on n'est pas dans un moule fermé. Il faut bien comprendre qu'on analyse un petit peu toutes ces pièces et on essaie de croiser un peu les intérêts et du recruteur et des candidats. Donc, vraiment, ne vous privez pas de le faire. là, c'est, je vais pas, on ne va pas vous répondre oui, non, quoi, vous voyez, c'est pas, on n'est pas dans quelque chose d'aussi carré, finalement. Hein. Bien sûr, il y a des incontournables, mais ça, on pose le cadre, et à partir du cadre posé, on apprécie tout ça. Hein.
La seule chose, c'est être voilà. titulaire du CAFIPEM oui. au moment de l'examen du dossier. Il faut voilà. que vous puissiez justifier du CAFIPEM. Ah, il y a une question sur les collègues qui font un dossier à la fois auprès du MEAE sur les postes attachés de coopération et sur les postes à l'agence. En général, le MEAE, l'an dernier, avait fait ses commissions un peu avant nous.
Oui, donc on était au courant des gens qui étaient retenus. Oui. On était au courant des gens qui étaient retenus.
Oui, alors sur les nouvelles zones géographiques définies, voilà.
En fait, là, la personne qui pose cette question, les zones géographiques qui sont dans le dossier de candidature ne sont pas en relation avec ce qu'on appelle voilà. les secteurs géographiques à l'agence. Ce sont vraiment des zones géographiques.
Voilà.
Et d'ailleurs, sur le site de saisie, vous avez en fait les pays, la correspondance entre les pays et à quelles zones ils appartiennent oui. au niveau zone géographique au sens candidature. Il y a des questions qui ne sont enfin là le webinaire qu'on organise actuellement c'est vraiment sur les postes de détachés formateurs donc effectivement si vous n'avez pas d'expérience de formateur enfin pas de CAFIPEM pas d'expérience de formateur c'est si pas ce type ça, de poste oui, qu'on va pouvoir retenir votre candidature vous avez plutôt un profil pour des postes de détachés d'enseignement avec une campagne qui s'ouvre normalement la publication des postes sera vers la mi-décembre et une campagne de saisie de dossier à partir du mois de janvier donc c'est deux campagnes différentes et sur ces postes-là qui font l'objet du webinaire aujourd'hui, il faut vraiment CAFIPEM et expérience de formateur.
Si vous voulez ensuite avoir des informations plus précises sur la structure des établissements, etc., en termes de EGD ou pas, conventionné ou pas, allez sur le site, une fois de plus, allez vraiment sur le site de l'AEFE qui est extrêmement dense, qui est très riche. Et de toute façon, qui sera un incontournable dans le cadre de l'entretien, parce que on apprécie hein, quand même que les gens soient vraiment renseignés, quand même, hein, surtout sur une primo-candidature, hein, notamment. Vraiment, allez voir, vous avez toutes ces informations en croisant tous ces éléments, vous aurez une large connaissance quand même de ce qui se pratique et de ce qu'est aussi, d'une certaine façon, le réseau.
Il y a une question qui revient sur l'avancement de carrière pendant le détachement à l'agence. On l'a déjà évoqué, mais pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure, en fait, il n'y a pas de corps de fonctionnaires à l'AEFE. Vous êtes détaché sur contrat, mais vous restez titulaire du ministère de l'Éducation nationale en détachement auprès de l'AEFE. Donc, vous continuez à avancer au niveau des échelons, au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Vous pouvez continuer à participer aux campagnes d'avancement, notamment pour la hors-classe. La seule limite, c'est ce qu'a présenté tout à l'heure Virginie Chupin, c'est le gel de l'indice pendant les trois premières années du contrat et puis après qui est débloqué en fait à chaque renouvellement. Mais vous continuez effectivement à pouvoir avancer au niveau des échelons et à changer de grade au sein de votre corps de fonctionnaire. Ouais. Alors, il y a beaucoup de questions sur la transmission des dossiers. Je vous invite quand même à revenir oui. sur le site de l'AEFE où tout est détaillé sur la dernière page du dossier.
Et on peut,
vous
on
avez
peut,
vraiment le.
On peut ajouter, hein, repréciser que tout ce qui se dit là aujourd'hui, vous l'aurez dans le cadre d'un podcast hein, qui va être mis en ligne hein, sur le site, peut-être même dès demain. Hein, donc, vous pourrez réécouter tout ça. J'ai donné toutes ces indications au début. Donc, voilà, n'hésitez pas à réécouter.
Et une précision, on l'a déjà noté tout à l'heure dans les critères de sélection des dossiers, ces postes de formateur du premier degré s'adressent à des personnels titulaires donc, du premier degré, professeurs des écoles ou instituteurs. On a encore quelques collègues qui sont instituteurs. Ça ne s'adresse pas à des enseignants du second degré ou de l'enseignement supérieur. C'est vraiment enseignant titulaire depuis au moins 2 ans. Je crois que c'est la condition qui apparaît dans la note du BO. Et enseignant du premier degré. On ne peut pas recruter d'autres personnels sur ces postes-là. Et pas de personnes de l'enseignement privé, c'est que l'enseignement public.
De toute façon, si vous avez des questions tout à fait personnelles et des inquiétudes, moi, je vous propose de communiquer directement sur l'adresse qui vous a été donnée à la fin de ce webinaire et aussi de contacter Mme Christine Charmeau-Sandeau.
Alors, vous n'hésitez pas à m'appeler, hein, effectivement. Voilà. Je suis et, là pour vous répondre.
Et elle pourra vous donner ces éléments nécessaires pour que vous ayez toutes les informations qui vous permettent d'accéder à votre choix que vous allez faire de votre de candidature ou pas. Ça, c'est important. Vous avez encore une semaine pour le faire, donc vous avez encore le temps de vous informer pour qu'on puisse vous donner toutes les informations qui vous permettent de faire, comme nous le disons beaucoup aujourd'hui, un choix éclairé sur votre candidature. C'est le but aussi de ce webinaire, puisque c'était l'objectif qu'on s'était fixé en testant cette année cette information post-candidature. Voilà, je crois que nous avons fait le tour des informations que nous souhaitions évoquer avec vous. Écoutez, moi, je souhaite vraiment que vous ayez, on vous ait pas démotivé, mais au contraire, nous vous ayons apporté des informations, des éclairages, et que vous soyez encore plus motivés pour nous rejoindre dans des conditions très explicites de recrutement et de règles de gestion qu'on vous a exprimées et que vous retrouverez sur le site. C'est un beau réseau que le réseau des lycées français à l'étranger, je peux vous l'assurer. C'est un réseau où vous allez être professionnellement, je l'espère, très, très enrichi. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup de travail. Certaines, je sais que vous êtes beaucoup engagés en France, mais à l'étranger, c'est encore plus important parce qu'il y a des attentes qui sont encore plus importantes, parce que les publics sont différents, parce que les attentes parentales sont encore différentes, parce que voilà, il y a un besoin, et notamment au niveau des formateurs, il y a vraiment un besoin. Donc, vous aurez une belle expérience qui va vous permettre d'acquérir peut-être de nouvelles compétences que vous remettrez à un moment donné à disposition du Mensch lorsque vous reviendrez en France après une belle mission chez nous. En tout cas, nous vous souhaitons une très très belle rentrée et puis surtout, nous vous disons à bientôt. Voilà, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Non, au revoir.